Et s'il est prêt, je lui laisse la parole.
Merci beaucoup. Donc, effectivement, je vais... je vous remercie beaucoup de m'avoir invité déjà à parler. Et je vais vous présenter quelques données, effectivement, issues des travaux qui sont réalisés en stimulation profonde. Et donc, on va s'intéresser particulièrement à des effets observés et à tout ce que nous permet l'approche en stimulation profonde dans toutes ces procédures pour comprendre comment certains processus neuronaux dans certaines structures du cerveau, qui sont plutôt des structures profondes en l'occurrence, peuvent être liés à des événements... comportementaux. L'intérêt de la stimulation profonde, c'est d'avoir quand même... on parlait de révolution. La révolution, elle s'est faite... il y a une petite révolution, la scientifique, je pense, effectivement. Et je dirais il y a deux axes. C'est d'une part, ça a transformé la temporalité des observations. Et ça, je pense, ça va être un des fils conducteurs de mon exposé. C'est d'aborder la question de la temporalité. Et la deuxième chose, c'est que ça nous confronte à... aussi en permanence entre des activités d'expérimentation sur l'homme et des activités de soins. Et en fait, ça aussi, c'est l'autre axe directeur de mon topo, et on aura l'occasion d'en reparler. Alors, pour plonger dans ce domaine, je vous invite à plonger avec moi, et on va se mettre en position d'observation, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de documents, qui sont des documents vidéo. Je précise que tous les patients qui apparaissent ont donné leur accord pour être vus, évidemment, une certaine confidentialité qui va de soi par rapport à certaines choses. Mais on se met en position d'expérimentation et vous allez nous suivre dans cette expérimentation. Alors la première situation, c'est une situation clinique de base, c'est-à-dire que ça se passe à l'hôpital et on nous demande de voir quelqu'un. La question de départ. Alors, je vais vous montrer cette patiente 24 heures après. Alors, vous pouvez voir que la démarche est un petit peu différente. Si vous avez regardé le début de la vidéo précédente, il y avait une démarche qui était déséquilibrée. Je vais vous montrer maintenant un document 2 minutes après le premier film.
Non, ce matin, ça a changé.
Oui, ça change.
Qu'est-ce qui a changé pour vous?
Ça a changé. Oui. Parce que j'ai plus mon moment brusque, vous voyez. Ils sont plus énervés. Et j'ai plus les jambes qui sont, vous voyez. Avant, j'avais les jambes raides. Là, je ne sais plus.
Alors sur le plan clinique, si on fait une analyse sémiologique, en fait, il y avait ce qu'on décrirait en termes cliniques une tachypsychie, une accélération des processus psychiques, une élation de l'humeur, des modifications des contenus de pensée, mais également aussi des modifications motrices, avec des grands mouvements qu'on appelle baliques, avec une hypotonie, et puis également, vous avez vu une labilité émotionnelle, des choses qui étaient et qui se normalisent. Voilà, elle nous demande ce qu'on a fait là. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a fait là. C'est-à-dire, je vais vous montrer 30 secondes après le film. Alors, voilà. Ça, c'est des toutes petites structures dans le cerveau qui s'appellent noyau sous-thalamique, qui est au cœur des ganglions de la base, qu'on va voir en détail. Et ce qu'on a fait ici, simplement, c'est qu'on a changé un point de stimulation électrique du cerveau qui était ici situé 2 mm en dessous et qui maintenant est situé 2 mm au-dessus de cette petite structure. Et les modifications principales du comportement interviennent à peu près en 30 secondes, enfin quelques minutes, et se prolongent et se modifient au fil des heures et des jours. Et ça, c'est quelque chose qui aussi alimentera la discussion avec Pierre Magistretti plus tard. Alors, voilà, donc ça, c'est une entrée en matière. Et, pardon. Alors, la stimulation électrique. Bon, c'est fort. La stimulation électrique du cerveau n'est pas quelque chose de très récent. Les premières expériences qui ont montré que le cerveau répondait à une stimulation électrique, c'est 1860, c'est les travaux d'Edouard Hitzig, Gustav Fritsch, puis ensuite David Ferrier, Bartholov, Première Guerre mondiale, sur différents types d'animaux, des pigeons, des rats, des singes ensuite. Mais surtout, et c'est beaucoup plus connu, évidemment, c'est les travaux de Wilder Penfield, qui était neurochirurgien dans les années 30, et qui, lors de chirurgie de patients épileptiques, a finalement initié la cartographie fonctionnelle du cerveau en labellisant des petites zones corticales et en étudiant per opératoire les effets de la stimulation électrique de ces zones, ce qui aboutit au fameux homunculus moteur, c'est-à-dire la répartition des zones motrices à la surface du cortex. Alors, dans les années 60, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont commencé à montrer que la stimulation profonde, et en particulier la stimulation du thalamus, sachant que cette petite zone, cette zone du cerveau profonde était, on l'utilisait en faisant des lésions pour guérir des patients de tremblements, on a montré que la stimulation électrique de cette zone pouvait obtenir aussi un effet, mais l'avènement de la stimulation cérébrale profonde comme thérapeutique, c'est dans les années 87, après vraiment l'application par le professeur Benabit de Grenoble de cette stimulation chronique. Et c'est le premier échelon de la temporalité qui change, c'est qu'on passe à une stimulation qui était juste per-opératoire, qui permettait quand même, dans le même temps, d'assurer la reproductibilité d'un phénomène avec sa cause, qui était la stimulation électrique, mais qui était limitée dans le temps. Avec la stimulation cérébrale profonde, on est passé à une stimulation chronique dans le temps. Alors ça consiste en quoi, la stimulation profonde? Ça consiste à implanter des électrodes dans le cerveau et à les relier ensuite par un câble, un générateur d'électricité, hein, qui donc génère de façon chronique d'électricité. Ces zones profondes du cerveau, on va en reparler plusieurs fois, elles sont montrées ici, ce sont le système des ganglions de la base principalement, qui sont montrées de relief par une vue arrière. Et après repérage anatomique sur des IRM de ces structures et ciblage, au moyen de ce qu'on appelle la stéréotaxie, c'est-à-dire que ça évite d'ouvrir la boîte crânienne, mais c'est par repérage, éventuellement avec l'aide d'un robot, on introduit ces électrodes, on fait un repérage aussi électrophysiologique péropératoire, on va en parler, et ensuite les électrodes qui sont implantées disposent de différents plots de stimulation, c'est-à-dire qu'ensuite on peut modifier un petit peu la localisation de la stimulation, mais aussi les paramètres du courant, par télémétrie avec des appareils qui communiquent avec ce générateur qui est implanté sous la peau, et on peut donc modifier des paramètres comme la fréquence, l'intensité, la largeur d'impulsion. Et ça, c'est très important parce que c'est la deuxième, et vous voyez sur cette image que le neurologue qui règle ici le stimulateur, il y a un échange visuel, un échange social, c'est-à-dire qu'on est dans une situation vraiment d'observations cliniques tout à fait intéressantes et tout à fait particulières dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout limité, c'est le premier franchissement de la limite des disciplines. On n'est plus limité à une observation uniquement sur le plan moteur, mais évidemment à tout un tas d'interactions sociales tout à fait intéressantes pour nous, cliniciens du comportement. Ensuite, bon, ça, cette image, c'est pas une bombe, hein, c'est une modélisation de l'effet du courant en fonction du voltage, et enfin ça c'est un champ aussi de travail et d'exploration dont on reparlera. Alors, on va aller changer une petite étape, un petit peu plus loin. L'avènement de cette technique a permis de cibler certaines zones pour traiter la maladie de Parkinson. Je vais passer assez vite sur ce rappel anatomique parce qu'il est peut-être un peu fastidieux, mais enfin c'est quand même, ici vous avez la surface du cortex, ici vous avez ce qu'on appelle le striatum et le putamen qui reçoivent en fait de l'ensemble du cortex des afférences, et je vous décris ce qu'on appelle la voie dite indirecte dans les ganglions de la base, c'est un terme un peu barbare, mais qui donc envoie elle-même des efférences sur le globus pallidus externe, puis sur le nodo sous-thalamique qui est représenté ici, et enfin le nodo sous-thalamique, lui, contrôle les voies de sortie des ganglions de la base, c'est-à-dire la substance noire ici, le globus pallidus interne ici, renvoie lui-même des efférences sur le GP, sur le globus pallidus externe qui lui est envoyé, et enfin les deux voies de sortie qui sont le globus pallidus interne et la substance noire envoient sur un noyau du thalamus, disons, qui va reprojeter au cortex frontal. L'ensemble de cette voie, c'est ce qu'on appelle la voie dite indirecte, et pourquoi je vous en parle, c'est parce que elle est censée être hyperactive dans les Parkinson et elle est freinatrice du mouvement. Et en particulier, le nodo sous-thalamique a été identifié comme étant hyperactif grâce aux enregistrements électrophysiologiques, dans des modèles d'animaux aussi, on en reparlera après. Et lorsqu'on applique une stimulation sur cette zone, on réduit son hyperactivité et donc on libère à nouveau la motricité. C'est ça le fondement. Alors première étape, vous voyez, c'est que en fait, pendant les interventions, on procède à une exploration électrophysiologique des zones traversées. Et ça, c'est très important. C'est comme décrypter, quand on traverse plusieurs pays, il y a plusieurs langues, les différentes zones cérébrales, les différents neurones de ces zones cérébrales parlent des langages différents, et les électrophysiologistes arrivent à les identifier. Et on double le ciblage anatomique par un ciblage fonctionnel. Alors, c'est là où la première, analogie avec Penfield est intéressante. C'est que en fait, au travers, ici vous avez des neurones thalamiques, ici les neurones sous-thalamiques parkinsoniens, donc hyperactifs, ici la substance noire, et donc au moyen de ces enregistrements très très fins, ben, on a aussi fait, petit à petit, de façon beaucoup plus récente, une cartographie extrêmement précise, en appliquant des stimulations test selon les différentes trajectoires, puisqu'on implante un espèce de tube avec 5 électrodes disposées en étoiles, et on a donc une répartition dans l'espace, et on arrivait à délimiter des effets de la stimulation dans différentes zones. Et vous voyez qu'on est à nouveau dans la cartographie pour le plan moteur. Alors, à côté de ces effets moteurs, il y a eu d'autres choses qui sont apparues, mais je vais déjà vous montrer quand même un effet moteur de base. Voilà, un malade atteint de maladie de Parkinson en phase dite off, c'est-à-dire sans dopamine. Vous voyez qu'il est très lent. Il a une akinésie, il a des difficultés à la marche. Voilà, en phase on, c'est-à-dire sous dopa, lorsque la maladie évolue, la maladie de Parkinson, on obtient des effets de la dopamine qui sont des mouvements dyskinétiques extrêmement gênants. Ça, c'est l'évolution de la maladie de Parkinson. Et enfin, ce patient, après opération sans dopamine, vous voyez une démarche quasi normale, avec 80% de récupération de motricité. Alors, c'est devant ce type d'effets positifs, évidemment, que cette technique s'est extrêmement développée, puisque aujourd'hui, je pense à peu près 35 000 patients ont été opérés dans le monde, pas tous parkinsoniens, mais de par stimulation cérébrale profonde pour le tremblement ou le Parkinson. Et là, on va changer de domaine, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître, de façon concomitante à des stimulations, des phénomènes comportementaux, soit au bloc, donc avec, vous voyez, des comportements, des rires déclenchés par des stimulations test pendant l'opération. Alors, ce n'est pas qu'un rire, et voir, c'est qu'il y a aussi une modification et une élévation de l'humeur. Le patient se met à chanter. Je précise que c'est un patient qui n'a aucun antécédent psychiatrique. Hein. C'est une opération qui se passait à Beyrouth, au Liban. Mais, allez. Et alors, vous voyez, ce qui est très intéressant d'un point de vue clinique, regardez bien, c'est que de façon concomitante à cette modification de l'humeur, Vous voyez qu'il y a des dyskinésies du membre supérieur gauche que vous voyez très très bien ici. Voilà, ces mouvements rythmiques ici sont des dyskinésies et ces dyskinésies sont des signes moteurs que les neurologues attendent pour juger de l'efficacité de la stimulation de cette zone du nœud sous-thalamique. Donc on voit qu'il y a une concomitance d'effets moteurs et d'effets comportementaux. Alors on a vu aussi, en dehors du bloc opératoire, des modifications du comportement qui étaient consécutives à des modifications des paramètres de stimulation. C'est-à-dire, par exemple, après modification des paramètres où on est obligé d'ajuster, parce que la maladie continue à évoluer, finalement, il y a des ajustements qui doivent se faire au cours du temps. Et par exemple, après augmentation chez un patient, ça a été décrit par l'équipe de Grenoble, de l'amplitude du courant. Alors ça, c'est aussi très important, il vient d'Eric Crack, et son neurologue s'appelle Paul Crack. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout devant une sorte de rire spasmodique, pseudo-bulbaire, mais on est devant une modification de contenu de pensée avec un jeu de mots, et alors effectivement un rire, un fou rire absolument incontrôlable, extrêmement communicatif, puisque dans le document, le patient est entouré de tout... professeur Benabi, de professeur Pollack, et tout le monde se met à rire au bout d'un moment parce que c'est très très communicatif. Au bout d'un moment, c'est très désagréable pour le patient, en revanche. Et ce fou rire cède quelques minutes après le retour à un paramètre de stimulation inférieur. Donc ça, c'est une observation aussi de stimulation du nœud sous-thalamique. Alors dans la même région, on a d'autres observations. Une patiente, je vais vous montrer. Alors on est une minute après le contact mis sur le plot inférieur. On reparlera des localisations après. Et là, vous voyez, je ne veux plus rien voir, plus rien sentir. Enfin, vous entendez peut-être pas très bien. Alors là, vous allez voir cette patiente maintenant, une minute après l'arrêt de ce plot. Et vous voyez, modification de l'humeur extrêmement rapide, c'est-à-dire la disparition de l'aspect dépressif aigu induit par la stimulation du plot antérieur, et le retour avec un petit rebond de l'humeur à une humeur normale. Alors, en l'occurrence, la localisation de ce plot montrait qu'on était dans la substance noire, qui est la petite structure qui est juste sous le nœud sous-thalamique. Bon. Ce sont des choses qui ont été plus ou moins reproduites. On a vu aussi des épisodes de manie en fait déclenchés par la stimulation de la substance noire. On n'entrera peut-être pas trop dans le détail. Donc vous voyez des modifications aiguës, réversibles, en fonction de paramètres de stimulation. Alors encore un patient. Alors, ce qui est intéressant sur ce patient, c'est que c'est une stimulation unilatérale. Et vous voyez là aussi des bursts de rire qui apparaissent après modification des paramètres de stimulation, d'un seul côté. Alors on lui demande... On lui demande pourquoi il rit, et il dit je sais pas. Et alors il essaie de trouver une explication, il dit bah, peut-être que je ris parce qu'on m'a trop stimulé. Et il a des mouvements rythmiques de la jambe gauche aussi qui apparaissent. Alors à côté de ces modifications aiguës, ce qui est très intéressant, et là encore un chapitre de plus dans la temporalité, c'est qu'on a vu apparaître... avec des observations très fines des patients qui étaient suivis, des modifications à long terme. Alors soit par exemple, vous avez peut-être entendu parler que certains, dans la maladie de Parkinson, des médicaments anti-parkinsoniens peuvent déclencher des conduites de jeu pathologiques ou certaines conduites compulsives, et on a montré qu'en fait, avec la stimulation neurosothalamique, on améliorait et on faisait disparaître ces conduites. Alors la question de savoir si c'est par le fait qu'on baisse les médications dopaminergiques reste posée, mais on a un certain nombre d'éléments pour penser qu'on participe aussi directement à un effet thérapeutique par stimulation. Enfin, ce qu'on a montré aussi, c'est qu'en fait, quand on attendait un certain temps d'adaptation des paramètres chez les patients parkinsoniens qui présentent énormément de comorbidités psychiatriques, de type troubles anxieux, troubles dépressifs, et bien tous ces troubles s'amélioraient dans le temps chez ces patients. Alors la question, c'est donc dans la mesure où on peut induire des modifications émotionnelles extrêmement importantes dans ces petites structures, c'est pourquoi ? Est-ce qu'on a une explication déjà en termes d'organisation atomique. Alors, je vous remonte ce système des ganglions de la base, hein, c'est une série de noyaux à la profondeur du cerveau avec le striatum ici. Ici, vous avez globus pallidus externe, interne, le noyau sous-thalamique et la substance noire. Et ce système des ganglions de la base, en fait, reçoit des afférences de tout le cortex. Hein, c'est la surface externe du cortex, ici sur la surface interne, qui projette via le striatum et qui projette entièrement. Et ensuite, il se passe quelque chose dans ce système qu'on décope petit à petit. Et par les deux voies de sortie dont je vous ai parlé tout à l'heure, le globus pallidus interne ici et la substance noire, via un noyau du thalamus, on reprojette vers le cortex frontal. Alors, quelles sont les informations qui sont transmises? Alors, en fait, vous avez une répartition fonctionnelle qui est bien connue du cortex, avec les zones en rouge ici sont des zones sensorimotrices, des informations sensorimotrices. Les zones en bleu, enfin, je sais pas comment ça sort sur cet écran, ou en bleu ou en gris, sont des zones plutôt qui traitent d'informations cognitives, associatives, comme le cortex temporal, pariétal, préfrontal ici. Et les zones en jaune sont des zones dites limbiques qui traitent d'informations émotionnelles. Vous avez le cortex orbitofrontal ici, la partie antérieure du cingulum ici. Et vous voyez qu'il existe une certaine ségrégation de ces informations, en tout cas corticales, motrices, associatives et limbiques, et que cette ségrégation est maintenue dans les projections qui sont sur le système entier des ganglions de la base. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces informations via le thalamus, qui renvoie au cortex préfrontal, qui lui, finalement, est impliqué dans la planification des comportements. Et en fait, comment on part d'informations qui sont associatives, motrices et limbiques pour arriver à un comportement humain, où il y a un comportement humain est fait de mouvements, de cognition, d'émotions. Et y compris dans le moindre mouvement élémentaire, puisque vous n'allez pas serrer la main de quelqu'un de la même façon si vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, si c'est votre supérieur, si vous ne connaissez pas, vous connaissez, enfin bref. Alors, qu'est-ce qui se passe comme traitement d'information? Il y a différents modèles. Alors, le plus admis actuellement, c'est qu'en fait, cette ségrégation, elle est totalement maintenue, c'est-à-dire qu'il y a des circuits parallèles. Il y a eu en fait 5 boucles parallèles décrites par Delong et Alexander en 1986. C'est-à-dire qu'il y a une boucle motrice, c'est-à-dire que ça se projette et les informations restent séparées, elles remontent. Bien sûr, il y a une intégration qui se fera quelque part, mais ce n'est pas supposé se faire dans ce système. Et puis, il y a différents concepts qui supposent une intégration dans ce système, dont, bon, on ne va pas faire le catalogue, mais dont celui que nous on propose, qui est une confluence de ces informations qui peut justement se faire dans ce système, notamment parce que des toutes petites structures, ben, comme le néo-sous-thalamique, hein, le sous-thalamique, c'est 2 x 5 x 12 mm la taille, c'est vraiment une toute petite lentille et qui concentre ces trois territoires. Et on pense, effectivement, on a un certain nombre d'arguments pour penser que, en tout cas, dans ce système des ganglions de la base, il se produit une certaine confluence d'informations pour aboutir à un comportement harmonieux sur le plan de la motricité, des émotions et des cognitions. Alors on se propose, et on va donc aller dans le détail maintenant, grâce au paradigme de la stimulation cérébrale profonde, de vous montrer comment on peut aborder cette question du traitement des informations de différentes natures. Alors il y a des arguments déjà d'expérimentation animale qui montrent l'existence de cette ségrégation fonctionnelle, y compris dans les zones très petites de ganglions de la base. Alors c'est des travaux qui ont été menés dans l'équipe de Léon Tremblay à la Salpêtrière. Il s'agit d'injecter chez les modèles de singes, des agents pharmacologiques qui perturbent de façon réversible des groupes de neurones. Et ce faisant, on peut faire une cartographie fonctionnelle de certaines zones. Ici, le globus pallidus externe. Alors, les codes couleurs sont pas les mêmes que tout à l'heure. Jaune, c'est moteur. Vert, c'est associatif. Et bleu, c'est limbique. Et vous voyez qu'en fait, en déplaçant les sites d'injection, on modifie en fait les perturbations que l'on obtient en perturbant le fonctionnement de ces neurones. Alors, par exemple, dans les zones limbiques, en injectant ici ces agents, on obtient des comportements répétés, comme chez ce singe que vous voyez ici, de lavage de la queue, qui est un comportement tout à fait normal dans le registre comportemental de cet animal, mais là beaucoup, beaucoup plus important en intensité. Alors, de façon un petit peu schématique et provocante, mais enfin, c'est de vue de l'extérieur, évidemment, c'est peut-être très proche de comportements de rituels de lavage, de compulsions de lavage, vu dans des pathologies comme les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC sévères. Alors, l'intérêt de ce type d'approche expérimentale, c'est évidemment, on peut obtenir des mouvements anormaux très archaïques, comme des chorées ou des balismes, mais on peut aller vers des choses vraiment comportementales très intéressantes. L'autre intérêt, c'est de construire des protocoles de thérapeutique expérimentale, puisqu'on peut perturber de façon réversible l'activité dans une petite zone du globus pallidus externe, vous l'avez vu, et ça a été fait justement, c'est un papier qui est en cours de... qui est soumis, et d'induire un comportement répété, et puis de stimuler dans une autre zone, en l'occurrence le sous-thalamique, et d'observer ce qui a été fait, en fait, l'arrêt de ce comportement répété. Donc ça permet de faire une exploration des pistes, des cibles possibles thérapeutiques chez l'homme. Alors, un petit point méthodologique, puisque c'est un petit l'objet de ce séminaire. Donc, notre approche vraiment s'inscrit dans un parallèle avec la recherche expérimentale chez l'animal. Ça, c'est Claude Bernard. Vous voyez les travaux qui sont faits chez le singe, qui consistent à perturber donc ses activités neuronales, à les enregistrer, éventuellement proposer des thérapeutiques expérimentales. Et bien, d'une certaine façon, ce que nous faisons actuellement dans notre équipe et avec un certain nombre de gens, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il s'agit toujours de traiter des sujets qui souffrent d'une pathologie, mais c'est aussi, pendant l'opération, par exemple, de pouvoir procéder à des enregistrements électrophysiologiques, comme vous voyez ici, par exemple, tandis que le patient est soumis à une épreuve ou une tâche, là, la visualisation d'images émotionnelles, par exemple. Je vous reparlerai de ce protocole plus loin. Et vraiment, c'est tout à fait important, puisque en même temps que l'on soigne les gens, on valide l'approche que l'on fait sur le plan scientifique, et ça nous donne aussi une possibilité d'exploration in vivo du cerveau humain tout à fait unique. Et donc, ça, je crois que c'est quelque chose qui a été extrêmement important dans la démarche de recherche. Alors, pour que ça se fasse bien, il faut que ça se fasse dans un environnement vraiment très rigoureux, scientifique. Et la question qu'on pose, évidemment, c'est, d'un côté, il faut pouvoir explorer les ganglions de la base, avec une approche anatomique très précise, l'électrophysiologie, l'imagerie, et de l'autre côté, le comportement avec des experts en psychiatrie, en neurologie, et par la stimulation cérébrale profonde. Alors voilà, l'anatomie, donc il se trouve qu'on dispose aussi de gens qui travaillent sur des atlas extrêmement précis de ces zones profondes, à la salpêtrière, qui nous permettent de localiser, par exemple, les plots des électrodes qui sont implantés de façon très très précise, millimétrique, par rapport aux zones fonctionnelles. Ça demande une collaboration extrêmement proche avec tout le département de neurochirurgie pour pouvoir accéder au bloc et pour pouvoir, disons quand même, sans trop perturber les interventions, pouvoir installer des dispositifs expérimentaux. Donc ça demande des très grosses collaborations, évidemment, avec les centres de neuroimagerie aussi, puisque ça fait partie de nos recherches. Et enfin, voilà, ça demande aussi de développer des tâches ou des situations psychologiques expérimentales qui sont reliées à la question qu'on se pose et qui peuvent être appliquées au bloc. Alors, suivant cette démarche, on a initié nous un certain nombre de travaux. Bon, je vais aller encore un peu plus dans le détail. Selon trois maladies modèles, en fait, qui sont tout à fait intéressantes, parce que c'est la maladie de Parkinson, parce que en fait, elle est d'abord assez connue sur le plan anatomique, il y a quand même pas mal de connaissances sur la dégénération des neurones, sur un certain nombre de constantes physiques liées à cette maladie, et aussi parce que sur le plan phénoménologique, elle donne des perturbations qui ne sont pas seulement motrices, mais émotionnelles, psychiatriques, comportementales. Une maladie que vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez peut-être pas, qui est une maladie neuropsychiatrique, à l'interface vraiment entre la neurologie psychiatrique et le syndrome de Gilles de la Tourette, avec des gens qui ont des tics, des automutilations, mais aussi des fois des perturbations émotionnelles. Et enfin, une maladie dite psychiatrique, enfin maintenant les termes sont un petit peu... On pourra discuter de ça, surtout dans les formes les plus sévères, celles qui résistent à toutes les approches thérapeutiques, que ce soit psychothérapie ou médicaments. Et on a ces trois maladies modèles qui nous permettent d'explorer ce nombre de choses. Et maintenant, je vais entrer dans le détail. Alors, pour le maladie de Parkinson, je vais vous remontrer un document et vous montrer comment on procède pour pouvoir tirer profit d'observations comportementales. Donc, je vais vous montrer un patient, vous en avez plusieurs. Ça, alors, je reprécise, c'est le noyau sous-thalamique vu dans l'atlas des ganglions de la base de la salpêtrière, bon, peu importe, avec ces trois territoires fonctionnels sensorimoteur en violet associatif et en ocre, ici, enfin jaune, limbique. Et ici, vous avez une représentation schématique de l'emplacement des quatre plots des électrodes. Je vous rappelle l'échelle, hein, c'est, il y a 2 mm entre chaque plot, hein, 2 mm entre le centre de chaque plot. Donc c'est très petit. Et je vais vous montrer l'effet différentiel de stimulation dans ce plot ici et ce plot ici, qui sont tous les deux situés dans le sous-thalamique chez un patient. Alors, c'est un patient parkinsonien qui... Alors là, c'est simplement pour vous montrer, bon, on ne va pas rester très longtemps sur ce document, c'est des suites de petites épreuves motrices qui sont faites pour évaluer la sévérité de la maladie de Parkinson, et ici, on a un résultat moteur tout à fait satisfaisant, de l'ordre de 75% d'amélioration. Hein, c'est un patient, par ailleurs, qui était très actif, travaillait, voilà. Mais il a un bon résultat de l'opération, ça veut dire que pendant cette... les résultats de l'opération sont très bons, et sur ce plot-là, on a un très bon effet moteur. Maintenant, je vais vous montrer un document où on interviewe ce patient alors qu'on l'a, laissé sur ce plot de stimulation ici, alors que son plot habituel est celui-là. Hein. Enfin, disons que le plot qu'on a obtenu, qu'on a gardé pour lui, est celui-là, vous allez comprendre pourquoi. Et là, on a fait un entretien après avoir laissé pendant le week-end ce patient avec la stimulation à cet endroit-là.
On a 8 mm², voisin 4 mm², et puis voisin des piscines, moi j'ai une piscine, et puis on a rigolé tout ça. Donc ça a commencé par des jeux de ballon, des jeux comme on voit rarement en vacances, par des jeux de ballon, des jeux de plage, entre guillemets, plage verte, c'est plus joli que la plage jaune, ça c'est pas compliqué. Réveillé à 6h.
Donc ce matin, par exemple, vous êtes levé avec...
avec une pêche, oui. Avec la pêche, en fait. Ma femme a été livrée un client à Saint-Denis avant de venir ici. Et là, ça m'a beaucoup excité, parce que... Alors déjà, Saint-Denis, c'est horrible. Déjà, c'est trop beau, c'est pour mon mère. Enfin, là, ça m'énerve, c'est vraiment possible.
Donc, plus impatient que d'habitude.
Ah oui, oui. Ouais. Ouais.
Vous pourriez lire plusieurs pages à la suite, rester concentré.
J'aime pas lire, puis la télé c'est horrible.
S'il y avait un film par exemple, un
film comique
par exemple.
Oui. Un film comique.
Vous pourriez rester ainsi pendant une heure et demie.
Un film comique, je pense que maintenant les comédies, je peux en regarder quelques journées.
Je vais vous montrer maintenant le même patient 4-5 jours après. Passage sur ce plot jaune ici, 2 mm au-dessus. Alors sur le plan moteur, à moins que si on est un neurologue extrêmement expérimenté, il n'y a quasiment pas de différence entre les deux effets. On a eu en fait deux patients qui avaient à peu près ce même type de situation, c'est-à-dire des plots qui étaient bien localisés dans le sous-thalamique, mais qui étaient distants et qui obtenaient des effets comportementaux très différents, ainsi que c'est représenté ici. Et donc, oui, là, j'insiste un peu sur cet aspect clinique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, entre ces deux plots, qui sont encore une fois à 2 mm l'un de l'autre dans le sous-thalamique, la différence n'est pas sur le plan moteur, puisque les deux ont un effet moteur recherché qui est le même, mais par contre un effet comportemental radicalement différent. Objectivé par le fait qu'on a fait de l'imagerie cérébrale fonctionnelle chez ces deux patients, par PET scan, et qu'en plus on a mis en évidence, lors d'une imagerie qui permettait de différencier les activations cérébrales vues lors de la stimulation de ce plot et les activations cérébrales vues lors de la stimulation de ce plot, on a montré qu'il y avait un certain nombre d'aires qui étaient activées ou déactivées, avec des choses très intéressantes, comme par exemple la déactivation de zones, comme cette partie du cingulum antérieur ici, qui étaient déjà connues pour être effectivement ce phénomène concomitant d'épisodes hypomaniaques ou maniaques, ou de guérison de dépression, c'est-à-dire de modification de l'humeur qui était à peu près semblable. Donc une grande cohérence entre les activations cérébrales déclenchées par la stimulation de ces toutes petites zones ici. Donc l'enseignement principal, c'est que vraiment, des modifications très petites de ces circuits très profonds peuvent induire de grandes modifications corticales, mais assez fines en même temps, puisque vous avez vu que là, chez ce patient, le comportement moteur n'était pas vraiment différent, donc il fallait interroger ce patient ou son entourage pour observer des modifications comportementales. Alors ça nous a, compte tenu de l'aire de stimulation, de la zone de diffusion au voltage qui était utilisé, qui était assez faible, l'ordre de 1 mm probablement de diffusion au sein de ce noyau, compte tenu de la connectivité particulière du noyau sous-thalamique qui finalement reçoit des afférences de tout le cortex via le striatum, les structures intermédiaires et le pallidum. Mais pour vous donner une idée, en nombre de neurones entre le cortex et le noyau sous-thalamique, il y a un facteur de 4000. C'est-à-dire que pour 4000 neurones corticaux, il y a un neurone sous-thalamique. Donc compte tenu de cette espèce d'effet d'entonnoir des informations, et compte tenu aussi en fait de l'organisation très particulière de ce noyau à l'intérieur, et notamment dendritique, qui fait qu'en fait les grandes frontières fonctionnelles que l'on monte, elles sont probablement fausses, elles n'existent pas en tant que telles, c'est des gradients, et qu'en plus les neurones sous-thalamiques, ils ont des très longs dendrites qui passent d'un territoire à l'autre, et ils reçoivent donc des informations qui viennent du pallidum de différentes natures. Ça veut dire qu'un neurone sous-thalamique, il va recevoir des informations de nature émotionnelle, de nature cognitive, voire de nature motrice. Donc on pense que du coup, cette structure, c'est vraiment une des structures candidates à ce traitement de confluence des informations au sein des ganglions de la base. Alors, ça, on l'a montré à un certain niveau, hein, qui est celui de sa champ comportemental imagerie. Est-ce qu'on peut le montrer au niveau des neurones? C'est quelque chose qu'on a initié dans l'équipe maintenant. C'est-à-dire, est-ce que les neurones sous-thalamiques peuvent répondre? Est-ce qu'on peut montrer chez l'humain qu'ils répondent à des stimuli émotionnels? Alors, c'est quelque chose qui est possible et qu'on a montré assez récemment. Chez les patients parkinsoniens, il se trouve qu'entre le moment où on implante les électrodes, ici vous avez une IRM qui montre l'électrode implantée qui c'est 4 plots ici, hein, ça fait, voilà, qui, là c'est agrandi, il se passe, bon, selon les équipes, 2, 3 jours, 4 jours, entre l'implantation des électrodes et l'implantation du générateur. Et à ce moment-là, avec l'utilisation d'extension, on peut recueillir des activités électriques, en fait, au moyen de cette électrode qui est implantée, c'est des activités pas unitaires, hein, c'est des activités d'assemblée de neurones, ce qu'on appelle des champs de potentiel, en fait, mais selon des voies. Et on a un protocole qui consiste à soumettre des patients à des images qui peuvent être de nature neutre ou émotionnelle, positive ou négative. Là, j'ai une image plutôt émotionnelle négative, mais enfin, alors ce sont des images qui sont validées, bon, on ne va pas entrer dans cet aspect-là, et on croise toutes les conditions, c'est-à-dire que selon les conditions, il doit soit répondre en appuyant sur un bouton, c'est une tâche très simple, hein. Donc c'est une tâche de ce qu'on appelle de go-no-go émotionnel, c'est-à-dire que selon les conditions, il doit appuyer quand c'est une image neutre ou ne pas appuyer, ou appuyer si c'est une image émotionnelle ou ne pas appuyer. Bon. Et on a enregistré un certain nombre de patients comme ça, et ce qu'on a montré, tout à fait intéressant, c'est qu'à peu près 150 millisecondes après la présentation de l'image, qui est ici, sur cette sur ligne de temps, on a un potentiel évoqué qui apparaît. Et on a également un potentiel évoqué qui apparaît de façon contemporaine, concomitante à la réponse motrice, par les mêmes assemblées de neurones. Donc ça veut dire que les mêmes assemblées de neurones, elles codent, elles traitent une information de type émotionnel. Alors qu'est-ce que c'est qu'information? Est-ce que c'est émotionnel pur ou est-ce que c'est de la métacognition émotionnelle? C'est-à-dire est-ce que c'est le jugement que c'est une image émotionnelle? Bon, ça resterait à travailler, mais elle code pour une image, elle différencie une image émotionnelle d'une image neutre, puisque ici vous voyez ici le potentiel évoqué lors d'une image neutre et ici le potentiel évoqué lors d'une image émotionnelle, et c'est significativement différent, sinon je ne vous montrerai pas, bien sûr. Alors l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a montré que selon les voies d'enregistrement, et vous vous rappelez que ça permet de localiser au sein du noyau sous-thalamique. Alors après, avec notre atlas, on peut localiser en fonction des territoires. Eh bien, on a une inversion potentielle pour les réponses lors des images émotionnelles qui se situe entre les voies les plus ventrales et les voies les plus dorsales. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces assemblées de neurones qui, effectivement, ont l'air de traiter des informations émotionnelles, elles sont plutôt, effectivement, antéro-médiales dans ce noyau. Alors, La chose, bon, là, ça reste à confirmer, mais encore plus intéressante, récente, c'est qu'il se trouverait que les patients pour lesquels on a cette réponse significative en termes de champ potentiel, ce sont des patients qui, lorsqu'on stimule dans ces zones après, parce que tous les patients ne font pas des complications de la stimulation telles que celles que je vous l'ai montrées, mais il se trouve que ceux qui ont des modifications potentielles, eh bien, ils ont fait des complications comme ça de leur stimulation dans cette zone. Donc là, on commence à avoir un lien très important entre le fonctionnement de ces neurones sous-thalamiques et les manifestations comportementales. Alors, l'étape suivante, ça va être évidemment, et on est en train de le faire, au bloc, c'est-à-dire en enregistrement unitaire. C'est-à-dire que maintenant, on fait ce type de tâche avec... On enregistre un neurone sous-thalamique, et donc on va étudier pour voir si un neurone est capable de traiter plus d'informations émotionnelles ou motrices. Alors, on va passer à un autre registre de maladie modèle, et en particulier les maladies...
Twitches, make strange sounds, can't stay still. They may have Tourette syndrome and just can't help it. But you can help by calling the Tourette Syndrome Association at 1-888-4-TOURETTE.
Voilà, c'est difficile de résumer mieux la maladie de Tourette. C'est parfait. En 12 secondes, c'est fait. Donc, là aussi, je vais vous montrer les arguments expérimentaux qui nous permettent d'essayer de mimer dans des modèles de perturbation de neurones chez les primates, des signes qui s'apparentent à la maladie de la Tourette. Alors, d'abord, je vais montrer un patient atteint de cette maladie, et en particulier avec un symptôme qu'on appelle le touching. Bon, là, c'est des tics autres, avec des émissions de son, et puis tout d'un coup, voilà, vous avez un touching, là, c'est-à-dire cherche à toucher les gens avec un mouvement extrêmement rapide, qui est un tic. Et là, vous pouvez voir chez ce primate ici, là également, voilà, c'était très rapide, il faut avoir un peu l'habitude, mais il y a un mouvement de la main qui a vraiment la même cinétique que celle qu'on a vue chez ce patient. Donc on arrive à reproduire, là aussi en perturbant des neurones qui sont situés sur ces circuits limbiques encore, des ganglions de la base, des comportements qui sont extrêmement proches de ceux observés chez l'humain. Alors ça nous a donné quand même un certain nombre de... En parallèle, hein, parce que tout ça s'est fait en parallèle, ça nous a donné l'idée de dire est-ce que l'on peut stimuler ces relais limbiques dans les ganglions de la base pour soigner des patients qui ont été atteints de syndrome de Tourette qui ne répondent pas au traitement, qui sont très invalidés. Donc on a fait une étude chez 3 patients avec des séquences contrôlées de stimulation, c'est-à-dire où ni le patient ni les cotateurs savaient s'il y avait une stimulation ou pas et sur quelle cible. Je ne vais pas trop détailler les cibles. Il se trouvait que c'est des patients qui ont été opérés avec 4 électrodes puisqu'il y avait 2 cibles qui étaient testées, une qui était dans le palier d'homme interne et une qui était dans un relais qui est le centre médian parafasciculaire du thalamus. Ici, vous avez la présentation des électrodes des 3 patients en fait poulés sur la même figure. Et vous voyez, c'est très proche, évidemment. Et les plots jaunes sont les plots actifs. Enfin, je vais montrer une patiente atteinte de la Tourette, donc avant l'opération, qui avait des tics axiaux extrêmement sévères. Voilà, bon, c'est... Alors, sous stimulation pallidale, avec une amélioration de l'ordre de 75 à 80% des tics, disparition des tics, donc ouais, bon, on ne va pas regarder ça très longtemps, et avec une phase placebo, c'est-à-dire qu'il y avait un moment dans le protocole où sur ces patients, on arrêtait la stimulation, mais ils ne le savaient pas, ni le cotateur, et là aussi, la temporalité était récente, puisqu'en 1 à 2 semaines, on voyait réapparaître exactement les tics. Donc, ça permet de montrer qu'on a un effet qui est très sûr, on répond à certains canons de l'evidence-based medicine. Je vais vous montrer maintenant un document de la première patiente qu'on avait opérée, qui avait des tics beaucoup plus, de nature beaucoup plus émotionnelle, avec des automutilations extrêmement graves, qui est une patiente qui avait 30 ans d'évolution de Tourette, et qui était dans un état catastrophique. Alors, elle faisait ça 200, 300 fois par jour, hein. Vous pouvez expliquer. Elle se mordait les lèvres, elle essayait de s'arracher l'œil aussi. Et en stimulation on, donc on a vu... Alors elle avait maigri parce qu'elle prenait plus de neuroleptiques, donc voilà. Et on a vu un très bon contrôle. Et là aussi, lors de la phase placebo, on voyait réapparaître...
Même toute seule dans mon bureau, oui.
Un comportement d'automutilation et impulsivité. Alors juste un petit extrait, un an après la fin du protocole...
Trop d'années à souffrir.
Alors, là, je vous montre cette patiente parce que maintenant, on a 6 ans de recul et on a un très bon contrôle de ses tics. Et ce qui est très intéressant pour cette patiente, c'est qu'il était joint à sa maladie de Tourette, des troubles de personnalité qui étaient probablement très liés au développement de cette maladie dans l'enfance, et qu'on a pu aborder après le contrôle de ses tics, un travail de type psychothérapeutique tout à fait classique psychiatrique qui était impossible étant donné sa maladie avant. Et là encore, la stimulation apporte vraiment une modification profonde des conditions de travail et de soins de ces patients, puisque elle ne répond pas à tout, mais elle permet enfin d'accéder à d'autres voies thérapeutiques. Donc je ne vais pas entrer en détail, mais ces résultats préliminaires qui vont bientôt sortir nous fait proposer là un protocole multicentrique qu'on est en train de faire actuellement, et dans lequel on fait de l'électrophysiologie péropératoire pour vous montrer que c'est possible. Donc ça, c'est un neurone pallidal humain pendant une tâche de gonogo émotionnel. Bon, enfin, ça c'est... Alors, troisième maladie modèle, les troubles obsessionnels compulsifs résistants et sévères. Alors, c'est suite à une observation que nous avions faite, qui avait été reproduite par une autre équipe, de disparition de troubles obsessionnels chez des patients parkinsoniens qui avaient été opérés pour la maladie de Parkinson, hein, on avait vu, mais qui avaient des TOC qui préexistaient à cette maladie. On avait vu une disparition de ces TOC. On a construit en France un protocole multicentrique avec 10 CHU impliqués. De stimulation du noyau sous-thalamique et même d'une partie assez précise du noyau sous-thalamique grâce justement au ciblage très précis que nous pouvons faire. Bon, là aussi, je ne détaille pas, c'est un protocole qui répond au canon des protocoles d'essais thérapeutiques avec des phases complètement de double insu, avec ce qu'on appelle un crossover, c'est-à-dire que les patients ils étaient stimulés, puis ils étaient en wash-out, c'est-à-dire qu'on arrêtait la stimulation, puis ils étaient stimulés ou pas stimulés, puis ça se croisait comme ça. Donc on pouvait étudier chez le même patient comment il réagissait quand il est stimulé ou pas stimulé, lui-même ne sachant pas quand il l'était ou pas. Alors très très brièvement, ça devrait bientôt sortir également dans la presse scientifique, on a un très bon effet puisqu'on a à peu près 70% des patients qui ont amélioré leur symptomatologie de plus de 25%. Ça ne veut pas dire qu'ils sont guéris du tout, mais les patients à qui ça s'adresse sont des patients extrêmement sévères, hein. C'est pas l'objet de ce séminaire de détailler ça, mais vraiment il s'agit de patients qui ne font plus que ça, qui ne travaillent plus, qui n'ont plus de relations sociales, qui sont des heures chez eux, qui souffrent énormément, et donc quand on les améliore de 30%, des fois on permet à des gens de retravailler ou de ressortir, de voir du monde. Bon, certains ont une amélioration tout à fait spectaculaire, bien plus forte, avec même une disparition des TOC chez un ou deux patients. Pendant ce protocole très, très lourd, très complet, on a fait des expériences également péropératoires. Et là, c'est juste vous donner un petit avant-goût de choses très intéressantes sur le plan des activités neuronales unitaires. C'est qu'on a soumis ces patients, donc vous savez que dans les TOC, enfin vous savez pas, mais les TOC, c'est une association d'idées récurrentes, gênantes, de ce qu'on appelle les obsessions. Et par exemple, il y a des gens qui vérifient tout le temps, ils sont obligés. Vous vérifiez 3 fois éventuellement que votre porte est bien fermée, mais eux, ils le vérifient 30 fois, ou ils passent des heures à vérifier ce nombre de choses. Alors, on a été particulièrement sadique et on a exposé ces patients à une tâche qui consiste à voir une image, après un délai, voir une autre image qui peut être la même ou différente, avec évidemment des détails qui peuvent être plus ou moins difficiles. Et ensuite, les patients doivent décider si cette image est différente ou identique à celle qu'ils ont vue avant, mais avant de donner leur réponse, ils ont la possibilité de vérifier, c'est-à-dire de retourner la première image. Alors évidemment, pour des gens vérificateurs, il y a une patiente qui est restée bloquée sur la première image, d'ailleurs, pendant 20 minutes. Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est que cette tâche, elle met vraiment en situation naturelle, expérimentale, tout à fait intéressante. Et ce qu'on a montré, qui n'est pas encore publié, mais qui est quand même tout à fait passionnant, c'est qu'on a des neurones du noyau sous-thalamique. Alors là, c'est centré par l'événement, je ne vais pas trop détailler, mais qui n'ont pas le même pattern d'activité selon que l'image va être suivie ou pas d'une vérification. Donc c'est-à-dire que là, un niveau neuronal unitaire, parce que ça c'est un neurone hein, enregistré, et on l'a répété, on a une quarantaine de neurones comme ça, qui donnent un résultat sur l'ensemble des patients, on a la preuve qu'un neurone neurothalamique peut coter pour quelque chose qui n'a plus rien à voir avec simplement quelque chose de moteur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est lié à un processus pathologique, en l'occurrence celui de la vérification. Alors l'étape suivante, ça c'est pour illustrer notre démarche, c'est qu'on va aussi localiser en fonction de ces neurones, ça c'est pas encore fait, ça demande des mois de travail, la localisation de ces neurones dans notre système d'atlas pour en fait améliorer et affiner la définition de nos frontières fonctionnelles au sein de ces structures. Et également, on applique cette tâche actuellement en imagerie fonctionnelle, en IRM, pour étudier les corrélats corticaux, neuronaux plus larges de ces fonctionnements. Là, je voulais vous montrer quand même un résultat de l'étude multicentrique. Alors, on ne voit peut-être pas très bien. C'est qu'on a reçu à la fin de l'étude une petite carte d'une petite fille qui était la fille d'une des patientes qu'on a opérée. Et donc, qui nous disait, je vous remercie de m'avoir opéré. Je peux opérer ma maman, je peux jouer par terre, je dors dans ma chambre, je peux mettre des jouets dans le bain, ma maman ne pleure plus, ne crie plus, je peux inviter des copines pour dormir. Et bon, je trouve que c'était aussi intéressant que de montrer des graphes avec des améliorations d'échelle. Alors pourquoi ça marche? Je crois que je ne vais pas avoir le temps de détailler ça, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Quand même, j'ai envie d'en dire un mot. Ça, c'est un papier extrêmement intéressant qui est paru dans Science relativement récemment et qui a été fait chez les patients parkinsoniens. Je vais essayer de résumer surtout la tâche expérimentale. En fait, on pourrait dire, s'il y en a qui aiment le chocolat, par exemple, dans cette salle, si je vous propose en dessert entre une tarte au chocolat et un tiramisu, vous n'allez pas répondre tout de suite, parce que vous allez vous dire, zut, j'aime bien les deux, alors qu'est-ce que je vais choisir? Voilà. Ça, c'est une situation classique. Alors, après l'apprentissage de paires de symboles complètement abstraits, c'est beaucoup moins rigolo que les gâteaux au chocolat, on présente des paires de ces symboles à des gens, et en fait, ce qu'on a montré, c'est très facile, c'est que si cette paire elle est récompensée, c'est-à-dire c'est comme un jeu, hein, vous avez gagné ou pas gagné, bon, si cette paire elle est entre un symbole qui gagne de façon probabilistique plus souvent qu'un qui gagne très peu, vous n'avez aucun problème pour faire votre choix. Vous choisissez sans problème. Ce qu'on appelle les low conflict tests. Et puis il y a des situations où c'est difficile parce qu'en fait, les courbes d'apprentissage, ce sont des symboles qui sont très proches en termes de récompense. Donc quand on vous présente deux symboles qui sont très proches, soit en termes de récompense, soit en termes d'aversion, ça devient très très dur de choisir. Et vous mettez un certain temps à choisir. Qu'est-ce qu'on a montré de façon intéressante? Deux choses dans le Parkinson. Ça a été fait chez des patients à Paris à des seniors avec des Parkinson avec la dopamine et des Parkinson à qui on a arrêté la dopamine. Alors ce qui est très intéressant au passage, c'est qu'on a montré que la dopamine, ce dont on se doutait un peu sur le plan conceptuel, ça aide à gagner, mais ça n'aide pas à éviter de perdre. C'est-à-dire que la dopamine n'apprend pas à éviter les pertes. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est complètement cohérent avec le fait que les patients parkinsoniens sous dopamine, ils peuvent faire le jeu pathologique. Le jeu pathologique, c'est exactement ça. Vous ne voyez que le gain et jamais la perte. Donc ça, c'est le premier point fort de cette étude. Et le deuxième point fort, c'est d'avoir évidemment fait ça chez des patients stimulés et d'avoir construit un modèle connexionniste assez élaboré entre les différentes structures. Ça, c'est la substance noire. Ça, c'est le striatum. Donc en fait, vous reconnaissez... Alors, on ne connaît pas vraiment parce que c'est juste un modèle, mais les structures des ganglions de la base. Ce qui est très intéressant dans ce modèle, c'est que le rôle attribué au noyau sous-thalamique, c'est un rôle qui sert à différer la décision. C'est-à-dire quand vous avez une décision avec haut conflit, ce que suppose ce modèle, et comme tout modèle, évidemment, il marche, c'est-à-dire que le modèle computationnel, ça marche toujours, bon, il faut toujours les prendre avec distance, mais quand même, ce qui est intéressant, au passage, il intègre ce qu'on appelle la voie hyperdirecte, qui est une voie qui existe réellement, qui est une voie anatomique peu connue, qui est directe entre SMA, pré-SMA, des zones assez antérieures du cerveau, et le noyau sous-thalamique. Et il sert à dire, c'est pour ça que c'est « hold your horses », c'est vraiment « attendez un peu, n'allez pas si vite ». C'est-à-dire que le noyau sous-thalamique, il servirait à faire repartir une boucle de traitement de l'information lorsqu'on est face à quelque chose de haut conflit. Et quand on inhibe le STN, le noyau sous-thalamique, en le stimulant électriquement, eh bien, on s'aperçoit que les gens choisissent plus vite, et trop vite parfois. Et ça, c'est totalement cohérent avec ce qu'on observe en clinique chez les patients stimulés qui se mettent à être un petit peu plus impulsifs. Alors pourquoi je vous le montre? Bon, c'est un peu compliqué. Pourquoi je vous le montre? C'est parce que si on réfléchit au TOC et sur le fait que ça marcherait dans les TOC, c'est quand même intéressant parce qu'un certain nombre de comportements observés chez les patients obsessionnels consistent à différer l'action. Et donc si on inhibe une structure qui elle-même est impliquée effectivement dans le fait de différer l'action, on peut peut-être avoir une piste très spéculative de l'effet thérapeutique du sous-thalamique sur les TOC. Alors, je vais passer vite sur, pour finir, parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Il y a quand même d'autres types de stimulation dans les TOC. Je voulais juste évoquer le fait qu'il y avait dans le striatum aussi d'autres relais limbiques, des choses tout à fait intéressantes qui sont testées actuellement. Et là aussi, avec nos amis de Bordeaux, l'équipe de Bordeaux qui ont travaillé beaucoup, là aussi, la procédure de recherche est la même, c'est-à-dire qu'il y a aussi des enregistrements électrophysiologiques au bloc qui ont montré qu'il y avait des activités striatales qui semblaient être corrélées, chez 3 patients seulement, à l'état, disons, anxieux pendant l'intervention. L'étape suivante de recherche, ça va être de tester d'autres cibles et aussi de faire un travail collaboratif avec des modèles de rongeurs qui ont des comportements répétés et sur lesquels on peut faire des enregistrements sur tranche, très intéressant, en étudiant la connectivité fonctionnelle finalement et l'effet de la stimulation pendant le cortex sur des structures comme le STN, et c'est ce qu'on va faire aussi chez l'homme en parallèle, mais je ne vais pas trop détailler. Un point méthode encore pour dire que finalement la stimulation, qu'est-ce que ça fait, parce qu'on en a pas, parce qu'on dit bon c'est là, on met l'électrode, on met du courant, bon. Alors bah, si on n'en parle pas trop, c'est parce qu'en fait il y a que des hypothèses et que c'est très très compliqué pour le moment. Et juste pour illustrer le fait que c'est compliqué, ce qui en soi je trouve est pas gênant, et pas gênant du tout, c'est que ici vous avez le plot de l'électrode, donc au fur et à mesure qu'on s'éloigne, le champ électrique diminue d'intensité. Et déjà en fonction de la distance entre le champ et le neurone, on a des effets qui ne sont pas les mêmes. Des effets qui ne sont pas les mêmes sur l'axone, sachant que lorsqu'on est proche, on a plutôt un effet activateur, et lorsqu'on est loin, on a plutôt un effet inhibiteur. Et sur le soma, dans les deux cas, on a un effet inhibiteur de l'activité. Donc déjà, vous voyez, ça devient, c'est déjà très compliqué. Déjà, ça c'est l'humain. Et évidemment, après, il faut intégrer sur le fait que ce sont des structures qui sont en circuit et qu'il y a des efférences et des afférences multiples. Et donc la résultante n'est certainement pas superposable à la lésion, comme c'était supposé au début, puisqu'on a fait beaucoup de travaux en stimulation par homologie entre ce qui est obtenu en lésion, c'est-à-dire en lésion des structures, et en stimulant. Et ce qu'on peut penser aujourd'hui, dans ce qui est admis, c'est qu'en fonction des volumes d'activation, on a des effets différentiels de neurones de projection ou de neurones afférents. Bon. J'avais mis aussi cette diapositive pour pouvoir initier une discussion avec Pierre Mistretti sur le fait qu'on ne parle que des neurones, et évidemment, de toute façon, probablement qu'il y a un effet sur la glie, et c'est extrêmement intéressant, d'autant plus qu'on a des effets de plasticité évidents, observables grâce à la temporalité des observations. Déjà, on a des effets à quelques secondes, à la minute, à quelques heures, à quelques jours, qui sont différents. Alors, c'est le début de mes diapos de conclusion. Alors, tous ces travaux se font en parallèle, mais là c'est la particularité un peu de la stimulation cérébrale profonde, c'est que finalement, est-ce que on procède chez l'homme après avoir expérimenté chez l'animal? Ben, c'est pas si évident en fait, on procède en parallèle. Il y a eu quand même beaucoup de travaux qui ont été faits chez les rongeurs, de la stimulation de structures, mais souvent c'est fait sur des comportements extrêmement basiques, hein, de recherche de nourriture, d'exploration ou de cycle veille-sommeil. Mais il y a quand même pas le travaux, puis chez le singe ça peut être un peu plus élaboré, mais enfin évidemment l'homme en mouvement, c'est quelque chose qui peut, disons, contenir une certaine épaisseur et toute une dimension qui est difficile d'appréhender chez l'animal. Néanmoins, c'est vrai qu'on propose que justement certaines structures profondes du cerveau puissent être le lieu d'intégration d'un certain nombre de ces données de base pour obtenir un comportement. Alors, l'autre point, c'est qu'à partir du moment où on dit, bah oui, ça pourrait, c'est un endroit vraiment clé, il y a un danger, c'est celui d'un néolocalisationnisme, et de retrouver, alors bon, en fait c'est la deuxième erreur de Descartes, hein, il s'était trompé une première fois, puis il s'est trompé parce que c'était pas la glande pinéale, c'était bien le noyau sous-thalamique en fait, qui était le lieu de connexion entre l'âme, non voilà. Alors, non, c'est vrai qu'il y a un danger, mais en fait, ce que je voulais dire par cette diapositive, c'était aussi le fait que, je ne sais pas si ça nous renseigne sur l'inconscient, mais ça nous renseigne sur l'inconscient des chercheurs, par contre. Parce que, en fait, ça soulève beaucoup de questions, beaucoup d'engouement, beaucoup de craintes, et en fait, dans les discussions avec les collègues sur les effets de la stimulation, comment on aborde, souvent, il y a... Et moi, je crois que l'inconscient des chercheurs, il est structuré par les travaux de Descartes, justement, et avec toujours la tentative... La tentation d'une localisation ultime. Alors qu'évidemment, nous, on raisonne en termes de réseau. C'est absolument pas. de localisationnisme à l'extrême, et au contraire, on prêche pour une certaine complexité, ce qui est pas évident, évidemment, à exposer ensuite. Alors, en résumé, ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est que concernant le comportement des ganglions de la base, en fait, la première donnée à l'étape de nos travaux actuels, c'est que les informations de type motrice, cognitive, émotionnelle sont dans le même temps ségrégées dans des territoires séparés dans les ganglions de la base, mais elles sont intégrées au moins au niveau des zones sous-thalamiques, ce qui est une information un peu contradictoire, et donc il faut qu'on avance en recherche pour préciser la façon dont ça se fait. La deuxième information importante, c'est que les territoires limbiques des ganglions de la base jouent un rôle majeur dans les processus comportementaux émotionnels et donc sont une cible majeure pour la stimulation thérapeutique chez les patients qui relèvent de cette implication. Et ça, c'est nous incite à poursuivre nos recherches dans un cadre éthique, évidemment. Et sur ma diapo de fin, qui présente l'ensemble des gens impliqués à la Salpêtrière et ailleurs, d'ailleurs, dans ce travail, elle représente aussi la nécessaire multidisciplinarité de cette approche. Et ce que je voudrais dire au travers de cette diapositive, et notamment par le fait que, bon, on utilise des patients qui sont sujets d'expérimentation, mais on est en permanence entre le patient sujet de soins, qui est un individu, et le patient, qui est un corps biologique sur lequel on fait également des expérimentations. Et on bénéficie beaucoup de l'observation de Baptiste Moutot, qui est d'ailleurs là aujourd'hui, s'il peut se joindre à la discussion, qui en fait, parce que c'est un peu l'arroseur arrosé, nous-mêmes, nous sommes sous son observation depuis quelques années, puisqu'il est ethnosociologue, il fait une thèse, il est chercheur, et il nous observe depuis quelques années. Alors il se met là à côté, il regarde, il est là quasiment partout dans tout ce qu'on fait, et il observe là aussi la modification des pratiques. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que la stimulation cérébrale profonde change des choses. Et la question, c'est de savoir pour le moment, ces patients bénéficient d'un encadrement tout à fait particulier, de recherche et de soins, ils sont encore dans le laboratoire. Et pour reprendre son expression, la question, c'est de savoir maintenant quand est-ce qu'on va ouvrir le laboratoire et que vont sortir dans la nature ces organismes électriquement modifiés. Voilà.